talmudique. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au Palais de Chaillot. Pour commémorer son adoption et célébrer le 10 décembre de chaque année, la Journée des droits de l'homme. Le préambule, qui précède les 30 articles de la Déclaration, se termine par cette phrase. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Ce texte met au centre de ses préoccupations l'enseignement et l'éducation qui doivent être le relais de la mise en œuvre effective de ces droits et libertés sur un plan national et international, c'est-à-dire universel. Un texte complexe dont chaque langue de traduction a apporté des nuances intéressantes. Je noterai, pour exemple, que l'hébreu traduit « Achaza le chol bayolam bidvar sruyot à Adam » qui se traduit par « déclaration pour tous ceux qui viennent au monde en ce qui concerne les droits de l'homme ». Déplacement lexical qui souligne la complexité du concept d'universel qui ne pouvait apparemment pas se traduire tout simplement par un mot emprunté au français ou à l'anglais, ce qui aurait donné « Achaza universalit ». Qu'est-ce que l'universel ? Le concept universel est-il universel ? Comment concilier l'universel avec les identités singulières et nationales de tous les États signataires de cette déclaration ? L'universel, qui vient du latin universus, c'est-à-dire tourner dans la même direction, ne comporte-t-il pas de facto un risque d'entrer en contradiction avec les droits de liberté, de mouvement, d'expression et de conscience au cœur de cette même déclaration ? La question des religions monothéistes, de leurs rencontres et leurs dialogues, n'est pas absente de ces débats. La foi religieuse est souvent aux prises avec la tentation d'une propagation sur un plan universel. Nous voilà donc devant un concept complexe que je voudrais aborder aujourd'hui avec un éminent talmudiste qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, non seulement dans le cadre d'une recherche théorique, mais aussi dans un engagement pédagogique à travers de nombreuses rencontres avec les multiples acteurs de cet universel, à la fois dans le monde communautaire, universitaire et celui des différentes spiritualités à travers le monde. Marc-Raphaël Guedge, bonjour.
Bonjour.
Marc-Raphaël Guedge, c'est un grand plaisir de vous recevoir dans Talmudique. On vous doit de nombreux articles importants dans lesquels, à travers vos commentaires des textes de la tradition, on découvre l'univers de votre philosophie. Après des études talmudiques et rabbiniques, vous avez été rabbin à Paris et professeur de pensée juive au séminaire israélite de France, puis grand rabbin de Metz et de la Moselle, puis grand rabbin de Genève. En 2001, vous décidez de vous consacrer entièrement à l'enseignement et aux rencontres entre spiritualité et vous créez en Suisse la fondation Racines et Sources. Qu'est-ce qui vous a amené à la création de cette fondation ? Comment et pourquoi s'est-elle imposée dans votre parcours rabbinique ? Et en quelque sorte, pourquoi cette rupture avec le monde rabbinique ? Marc-Raphaël Guedge.
Je ne parlerai pas de rupture. Pour moi, c'est une continuité, c'est un élargissement, un approfondissement. Qu'est-ce qui m'a amené ? C'est une excellente question. Je crois, vous savez, j'ai enseigné à Paris au Centre Rachi, au QEJ, le Centre Universitaire d'Études Juives. Et dans ce centre, il y avait des Juifs et des non-Juifs. Et j'ai été frappé de m'apercevoir que l'écoute, la fraîcheur de l'écoute, la profondeur de l'écoute, cette sensibilité de l'écoute chez mes élèves non-juifs dépassait de loin la sensibilité des élèves juifs. Pourquoi ? Parce que dans nos communautés, on a l'habitude d'entendre beaucoup de choses. Et notre curiosité est émoussée, il n'y a plus de virginité. Et je me suis dit, on a un devoir. On a un devoir, on a un patrimoine. Ce patrimoine, c'est un patrimoine de l'humanité. Je ne sais pas si l'UNESCO reconnaît notre patrimoine, mais il faudrait le faire reconnaître. Et on a le devoir de le transmettre. Alors bien entendu, on peut citer des versets nous être une lumière pour les nations, etc. Cette dimension universelle qu'on doit partager, c'est un devoir de le partager. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'humanité. Et je me rappelle toujours de ce verset extraordinaire dans la Genèse. Ze sefer toldot Adam. Voici le livre de l'engendrement de l'humain. La Torah se présente comme le livre de l'engendrement de l'humain en général. Et je dis toujours, le but du judaïsme, c'est pas le judaïsme. Le but du judaïsme, c'est l'engendrement de l'humain. Et c'est un chemin qui s'est fait. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'un des grands maîtres de la pensée juive contemporaine en France, qu'on appelait Manitou, c'était son totem chez les scouts, c'était Léon Ashkenazi.
On en a beaucoup parlé dans Talmudique.
Ah, vous en avez parlé, très bien. Et donc, Léon Ashkenazi, que je connaissais bien, il y avait des liens d'affection entre nous, je venais d'être nommé grand rabbin de Metz, je rentrais à peine dans ma fonction, et j'étais dans mon bureau, je reçois un coup de fil, il m'appelle lui-même, il me dit « Marc, voilà, j'ai beaucoup d'élèves non-juifs, il n'est pas question qu'ils se convertissent au judaïsme, ils sont très bien dans leur identité, mais ils s'intéressent beaucoup à la Torah, à la sagesse juive. J'ai pensé à toi pour créer une institution pour eux. » J'ai dit, Manitou, il fallait m'en parler avant, je viens de prendre des fonctions. Mais cet appel de Manitou, que je considère comme un de mes maîtres, et non des moindres, a toujours résonné en moi. Et donc, le jour venu, j'ai entendu cet appel et je l'ai réalisé.
Alors pourquoi ce nom Racine et Source ?
Vous m'obligez à puiser dans les racines de mon inconscient. Parce que vous savez, il y a une poésie dans les noms et puis on l'a choisi, on ne sait pas pourquoi on choisit. Et puis maintenant il faut faire une analyse très rapide, une auto-analyse très rapide. Racine probablement parce que pour être ouvert il faut être enraciné. Et c'est dans l'enracinement, dans une tradition, dans la profondeur de la tradition que l'ouverture se fait, on en reparlera. Source, c'est l'ouverture. Source, c'est cette eau qui coule. On dit que le chesed, la charité, l'amour, est comparé à l'eau. Parce que l'eau s'épanche, l'eau coule. Et donc, elle féconde, elle va au loin. Elle féconde des consciences. Et je me rappelle de cette phrase de Jabès. Le rêve de la rive est une autre rive. Et je l'ai mis en exergue d'ailleurs de la fondation lorsque je l'ai créée. Et cette idée donc d'aller vers l'autre. Mais aller vers l'autre, mais n'oublie pas ton enracinement. Et c'est toujours une dialectique très féconde et très intéressante. On est quelquefois sur l'arête, sur un fil, mais justement cette marche sur un pont très étroit, comme disait Rabbi Nachman de Breslav, le monde est un pont très étroit, mais l'essentiel est de ne pas avoir peur. Relier les contraires, relier la racine et relier la source.
Alors justement, en faisant connaissance avec votre fondation, j'ai compris que sa philosophie était le partage des sagesses, ce qui est très différent du dialogue interreligieux, oui. Marc-Raphaël Gage.
Alors, disons que c'est parti, l'idée première de la fondation, c'était d'abord, comme ce que je disais, partager la sagesse juive. Et je m'inspire souvent du Dalai Lama qui disait « Je ne veux pas que vous soyez bouddhiste, mais nous avons une sagesse à partager. » Je dis de même, je ne veux pas, mon but n'est pas de vous judaïser, de vous transformer, de vous convertir, mais nous avons une sagesse à partager. Donc cette idée du partage de la sagesse avec l'universel humain, pour moi, est très importante. Et à mon avis, il est vital pour le judaïsme aussi. Et si vous me permettez une digression, je crois que peut-être qu'une des sources de l'antisémitisme vient du fait que nous donnons souvent l'impression d'être fermés dans un cocon, d'avoir une parole communautaire qui risque d'être perçue comme une forme d'exclusivisme, voire d'arrogance, voire la notion d'élection mal comprise. Il faudrait faire un cours là-dessus, c'est pas le moment. Mais à partir du moment où je sais que ma sagesse ne m'appartient pas, qu'elle appartient à l'humanité, que je vais en faire bénéficier les autres, alors je sors de ce cocon, je sors de cet exclusivisme et je réponds une attente inconsciente chez les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, attention, ne croyons pas qu'il n'y a que la sagesse juive qui soit parlante pour l'humanité. Et donc, il ne faut pas rentrer dans une folie des grandeurs, j'ai envie de dire. Et donc, il faut, justement, dans ce partage entre les sagesses, inviter les autres religions à puiser dans leur sagesse pour féconder et pour susciter un dialogue. Et si, grâce à notre travail, on arrive à faire prendre conscience aux chrétiens, aux musulmans, les bouddhistes, c'est plus facile. Ils se présentent comme une sagesse eux-mêmes. Mais souvent, quand je parle à un chrétien de sagesse, il me dit « Vous parlez de ma foi ?» Non, je dis « Je ne parle pas de votre foi. » Allez dans votre sagesse, votre spiritualité. Et pareil avec un musulman. Donc, il y a tout un travail. Et si on arrive à créer ce déclic chez l'autre, on a fait déjà un immense travail.
Alors, vous dites souvent, le mot identité est un mot important. En tout cas, il est très prégnant dans le discours contemporain. Oui. Et c'est un mot et une question qui vous ont profondément travaillé et qui, dans le cadre de votre fondation, a une place toute particulière. Et comment entendez-vous cette identité et comment vous l'articulez avec la question de l'universel, Marc-Raphaël Gedge?
Oui. Écoutez, avant de parler de l'universel, il faut déjà analyser la notion d'identité. Si je me définis d'emblée comme juif dans mon rapport à l'autre, je me définis de façon fermée. Et très souvent, quand on se définit comme juif, comme musulman ou comme chrétien, c'est dans des moments de conflit. Il faut prendre conscience de la complexité d'identité. Puis puisque je vais parler de moi, je m'excuse, parce que à travers moi, je comprends la complexité. Je suis né en Algérie, à Constantine. Je suis très sensible à la musique arabe de Constantine, aux mets, aux odeurs, etc. Ça m'accompagne encore aujourd'hui, bien entendu. J'arrive en France à l'âge de 11 ans, et là, je m'initie à la culture française, à la pensée française, à la pensée occidentale. Et très vite, je vais étudier dans une yeshiva, dans un institut talmudique, où je découvre la pensée juive, le Talmud, la Torah, la Bible, et je m'immerge dans un monde infini et dans une interprétation infinie, et toujours en France. Ensuite, je vais en Israël pour continuer mes études talmudiques. Et là, je rencontre l'identité israélienne, la dimension nationale de ce peuple. Je rencontre mon peuple et c'est une des composantes de mon identité. Je reviens en France où j'enseigne, puis en Suisse. Et tout cela crée un réseau d'appartenance. Est-ce que je suis un juif arabe? Peut-être. Mais je suis aussi un juif occidental. Et puis je suis un juif qui a vécu en Israël et qui vit aujourd'hui en Israël. Et donc l'identité, au lieu de parler d'une identité fermée, l'identité pour moi c'est un réseau d'appartenance. À partir du moment où il y a réseau d'appartenance, il faut faire l'harmonie entre toutes ces facettes-là. Les facettes de ces différentes appartenances, mais les facettes de mon identité psychologique, affective, spirituelle, etc. Donc, l'identité est à construire infiniment. Et c'est pas un monde clos. C'est pas une identité pétrifiée. Et à partir du moment où je comprends que l'identité est à construire et qu'il y a une harmonie à faire entre identité, je suis déjà très proche de l'universel. Très proche de ma conception de l'universel, qui est aussi une conjonction de coordination entre des sensibilités, des valeurs, des civilisations, des traditions, des spiritualités.
Alors on comprend dès lors une actualité dans votre pensée. Françoise Dolto parlait du complexe du homard en parlant des adolescents. Un adolescent, disait Françoise Dolto, c'est un homard pendant la mue, sans carapace, obligé d'en fabriquer une autre, et en attendant, confronté à tous les dangers, découvert de soi, sexualité, révolte, tentation de la violence, de la drogue ou de la dépression, vous utilisez une image très proche pour parler des jeunes et des moins jeunes attirés par l'intégrisme, une problématique malheureusement encore au cœur de notre actualité. Vous parlez de l'image du mollusque, Marc-Raphaël Gedge.
Oui, lors d'un échange que nous avons eu, j'ai parlé de cette image du mollusque. On remarque, bien entendu, le mollusque a une carapace très dure parce qu'à l'intérieur, c'est très mou. Et on a souvent besoin de carapaces très dures quand c'est mou à l'intérieur. Et j'ai pensé à cette image du mollusque lors d'une discussion qu'on a eue à la Fondation Racine et Source. Nous avons organisé par le passé dans la Fondation ce que j'ai appelé un groupe de recherche où on invitait des théologiens juifs, chrétiens, musulmans, quelquefois bouddhistes, quelquefois un philosophe, et on traitait de thèmes. Et le thème qu'on avait choisi de traiter pendant un semestre, c'était « Qu'est-ce qui légitime le dialogue interreligieux au sein de chacune de nos traditions ?» Parce que le dialogue interreligieux, ce n'est pas évident. Il peut y avoir une altération de l'identité, une peur de se perdre, une peur de relativiser à outrance, etc., etc. Et donc, ça demande beaucoup de maturité. Ça demande de la racine et de la source, voilà. Un ami m'a dit, tu sais Marc, tu invites toujours des gens très ouverts, et surtout des musulmans très ouverts. Ça serait bien, justement pour ce thème-là, d'inviter un musulman dit intégriste, de telle sorte que peut-être que le charme du thème va l'ouvrir à d'autres horizons. J'ai dit pourquoi pas. Donc j'avais un ami musulman, disons un islam intégral, pour être gentil, et je l'ai invité, il a accepté avec joie. Et donc je lui ai dit, voilà, il faut que tu parles de cette dimension-là, du dialogue interreligieux au sein de ta tradition. Pendant une heure, il a essayé de nous convertir. Il n'a pas du tout parlé du dialogue interreligieux, il nous a parlé de la beauté de l'islam, de la grandeur de l'islam, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sensibilité. C'était très touchant de l'écouter en soi, mais c'était étonnant, et on était un peu à la renverse. Il y avait un pasteur qui se lève et dit... Monsieur l'imam, vous avez oublié de parler de tolérance, de parler de respect de la différence, de parler de la relativité des croyances, et toutes ces notions vous échappent. Et c'est dommage. L'imam ne s'est pas démonté. Il lui a dit, monsieur le pasteur, je comprends maintenant pourquoi vos églises sont vides. Parce que vous avez une pensée molle. La tolérance, le respect de la différence. Les jeunes ont besoin de références claires, tranchantes, et vous ne les proposez pas. Et nous, l'islam... Nous sommes le couteau qui coupons dans le beurre de l'Occident. Parce que nous proposons une pensée claire, une pensée nette, une pensée tranchante. Et les jeunes ont besoin de références claires. Ils ont besoin de colonnes vertébrales. Vous ne leur proposez pas cette colonne vertébrale et c'est nous qui le faisons. On est resté quoi ? J'ai pas pu répondre. Parce que c'est juste. Sociologiquement, c'est absolument juste. Après... J'appelle ça le réflexe de l'escalier. Une fois qu'on a descendu les escaliers, on s'est dit, voilà ce que j'aurais dû répondre. Donc, quelques minutes après, j'ai pris la parole et j'ai dit, l'imam a raison. Et on ne peut orienter les jeunes vers une spiritualité sans pour autant les fermer à l'autre, seulement si on les oriente vers des racines spirituelles profondes. C'est-à-dire, au-delà de leur religion, au-delà de leur dogme, au-delà de leur rite, pouvoir leur faire sentir la profondeur spirituelle de leur tradition, la sagesse de leur tradition. Et quand on est dans la profondeur spirituelle, on est ouvert. C'est-à-dire, quand on est dans la profondeur, il y a du contenu, on n'a plus besoin de carapace, on n'a plus besoin d'être un mollusque. Et voilà, c'est de cette... Bien entendu, il ne s'agit pas, il faut que je dise, c'est pas une critique de l'islam que je fais. Nous avons, nous juifs, des intégristes aussi. Et donc c'est une critique de l'intégrisme. Mais comme l'histoire s'est passée de cette façon, je raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée.
Mais quand vous dites qu'il faut une profondeur de la spiritualité, c'est justement ce qu'a dit cet imam, c'est que lui propose une profondeur de la spiritualité, et pourtant il n'est pas ouvert. Donc comment, en ayant ce rapport à la profondeur de la spiritualité, ne pas tomber dans le piège de l'intégrisme ?
Vous posez une excellente question, mais je crois que cette profondeur de la spiritualité, il a parlé à des théologiens. Et c'est un homme profond. Donc il a utilisé le langage des théologiens. Mais quand il parle à la jeunesse, il ne parle pas comme ça. Il parle de façon caricaturale. Et il est obligé de parler de façon caricaturale pour que les masses le suivent. Et je crois qu'en général, c'est ce qui se passe. Et j'ai toujours cette image que je propose. Je dis à mes compagnons de route des autres religions, j'aurais dit chacun à sa maison, il faut rester dans sa maison. Mais il faut crever le toit et se rencontrer dans les cimes de nos identités. Mais se rencontrer dans les cimes de nos identités implique aussi que nous nous rencontrions dans les profondeurs de nos identités, dans les profondeurs de nos spiritualités. Parce que la cime et la profondeur se rejoignent. Et je crois que c'est une image qui peut parler. C'est-à-dire ne pas faire Il ne faut pas que les gens aient peur de se quitter, de quitter leur lieu, de quitter leur maison.
Construit à leurs mains la tour de Babel. Il a crié donne, l'autre a dit trop tard. Lorsqu'entre homme et homme il n'y a plus de regard, la terre est trop grande et les hommes sourds. Pour un mot qui clame, un mot de travers, il y aura des flammes dans tout l'univers. Les bouches sont grandes pour les beaux discours.
Marie Laforêt, La Tour de Babel, une chanson de 1965, paroles et musique de Guy Béard, des paroles qui nous invitent à l'exégèse. La Tour de Babel, un texte biblique qui est peut-être le paradigme auquel on peut, on devrait toujours revenir pour réfléchir à cette question de l'universel et je dirais ici des dangers de l'universel. Marc-Raphaël Gage.
Oui, et j'ai en tête d'abord le verset. Vayi kol haaretz shafa ahat udvarim ahadim. La terre parle une langue, une, et des paroles, et j'ai envie de traduire avec le Talmud de Jérusalem, des paroles singulières. C'est-à-dire qu'avant l'épisode de la tour de Babel, il y avait l'unité, il y avait une possibilité de communication entre les singularités, entre les langues, entre les civilisations. Mais il y avait aussi les paroles singulières. La singularité existait. C'est ainsi que le Talmud de Jérusalem traduit. Et ce qui s'est passé, c'est cette volonté de construire une civilisation, une tour avec des briques, toutes les briques se ressemblent, sont identiques. Une civilisation du monolithique, une civilisation de l'idéologie monolithique, une civilisation d'un universel qui écrase les singularités. D'ailleurs, Marie Laforêt, elle parle justement de cet effacement du visage, du regard qui n'existe plus. De la main qui se tend et qui n'a pas de réponse, de cet amour qu'on recherche et qu'on ne rencontre pas, de la foule qui efface le visage, etc. Elle est tout à fait dans le thème. Cette chanson est tout à fait dans la thématique. Et c'est alors que cet universel monolithique qui n'a rien à voir avec le monothéisme, parce que le monothéisme, c'est pas un dieu unique qui nous plombe. C'est une caresse du divin qui met en harmonie la multiplicité. C'est une caresse d'un Dieu un, mais qui met en harmonie une multiplicité humaine. Mais cette multiplicité est préservée, elle est chérie, elle est aimée. Et à partir du moment où on a voulu créer du monolithique, on est dans l'idéologie, on est dans l'effacement du visage, on est dans la violence. Depuis, et donc, Dieu a, dans le texte biblique, dans le mythe biblique, Dieu a choisi de morceler les langues pour ne pas tomber dans ce monolithique violent et dans cette idéologie violente. Mais un de mes maîtres, on l'a cité tout à l'heure, c'est Léon Ashkenazi, Manitou, disait très joliment, il disait « Mais depuis, l'humanité est en exil de l'universel perdu. » C'est le premier exil avant l'exil d'Israël. Et à chaque fois que l'humanité a voulu restaurer cet universel perdu, elle a sombré dans l'impérialisme.
Comment échapper à l'impérialisme?
Voilà.
C'est la question. Voilà. Vous avez parlé d'harmonie des valeurs.
Oui, mais juste une petite référence. Après la déclaration des droits de l'homme, après la révolution française, etc., l'impérialisme napoléonien, la révolution russe, l'impérialisme communiste, etc. Les grandes religions qui ont voulu propager leur foi dans le monde entier, c'est aussi une forme d'impérialisme. Et la question que vous posez, elle est juste. Donc comment échapper à cet impérialisme? Alors pour échapper à cet impérialisme, il me semble que ce qui est important, c'est de conjuguer l'universel autrement. L'universel, c'est pas une pensée qui s'impose à toute l'humanité, mais c'est l'harmonie. C'est une conjonction de coordination entre les valeurs. Je crois que c'est le moment de citer le Rav Kook, qui disait que toutes les grandes civilisations sont traversées par trois courants. Le courant du sacré, le courant de la nation, et le courant de l'universel. Il s'adressait aussi à sa communauté, à son peuple en Israël, à ces jeunes qui reconstruisaient le pays. Et il leur disait, certains pensent que le judaïsme, c'est un sens du sacré, un certain sens du sacré, ou un sens certain du sacré. D'autres pensent que le judaïsme, c'est une dimension nationale, reconstruire ce foyer national. Et d'autres pensent que le judaïsme, c'est justement ce pont entre les nations, entre les sensibilités, entre les traditions, entre les cultures. Et chacun a raison. Les trois sont vrais, mais c'est partiel. Et pour sortir justement de cette partialité, il faut que chaque dimension critique l'autre. Que la dimension nationale critique la dimension universelle, parce qu'il n'y a pas un gratte-ciel à Tokyo, à Tel Aviv, c'est pareil. C'est du monolithique. Il faut que la dimension universelle critique la dimension nationale, parce que la nation, quand elle est fermée sur elle-même, elle risque d'être violente. Et il faut que ces deux dimensions critiquent le sacré, parce que le sacré risque d'être confiné dans un tiroir de la conscience et de ne pas féconder le réel, et ne pas être fécondé par le réel. Mais il faut aussi que le sacré critique l'universel, parce que le sacré nous apprend à faire notre tzimtzum, à faire le vide en soi, c'est-à-dire à ne pas se confondre avec, à ne pas chercher une identité trop facile, le sacré m'apprend à faire du jeu entre moi et mon idéal. Et donc le sacré est très important. Et c'est quand ces trois dimensions se sont critiquées réciproquement qu'on peut alors faire l'harmonie. Ne faites pas l'harmonie trop vite. Car une harmonie trop rapide, entre la nation et le sacré, c'est de la violence. Donc il faut qu'il y ait d'abord ces critiques réciproques pour que l'harmonie soit possible dans un second temps. Comment conjuguer l'universel sans impérialisme? C'est justement par cette critique réciproque. Et c'est justement, grâce à cette critique réciproque, comprendre que l'universel n'est pas simplement une valeur monolithique, mais une conjonction de coordination entre les valeurs. Mais pour que l'harmonie soit faite entre les valeurs, il faut revenir à la source des valeurs. C'est la dimension du sacré.
Et cette harmonie, il faut le faire aussi en soi.
Absolument. Absolument.
Alors, vous avez rencontré, je l'ai dit au début de cette émission, vous avez fait des rencontres entre spiritualité et les sagesses, plutôt qu'entre les dogmes et les religions. Vous avez rencontré Monseigneur Lustiger, vous avez rencontré le pape, le Dalai Lama aussi, et vous avez rencontré des groupes comme les Focolari. Qu'est-ce que ces rencontres ont construit chez vous et chez les autres personnes que vous avez rencontrées?
D'abord, ça enrichit mon judaïsme. Ça enrichit ma lecture de la Torah. Et ça m'a permis de sortir d'une lecture dogmatique de la Torah. Je me suis aperçu qu'il y a des mystiques dans les autres traditions. On n'est pas les seuls détenteurs de la spiritualité. La vérité a différentes facettes. Vous-même, vous citez, je vous cite maintenant, dans votre commentaire sur un verset. « Ahat diber Elohim shtaim sushamati » Et vous traduisez très joliment « La parole de Dieu est unique, mais l'écoute est plurielle » dans un de vos livres. Je crois que c'est dans le livre brûlé, peut-être.
Oui, livre brûlé. Je l'ai repris dans Lire aux éclats aussi.
Voilà. Je trouve ça très joli. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des écoutes plurielles d'une pensée, peut-être d'un absolu qu'on n'atteindra jamais, qui nous parle, mais qu'on écoute à travers nos subjectivités. Et la subjectivité, c'est pas rien. Car une subjectivité travaillée, intériorisée, ouverte, elle est capable de saisir un pan de la réalité. Et un pan réel de la réalité. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai été véritablement enrichi spirituellement par des rencontres. Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai passé 3 semaines dans un monastère bouddhiste au village des Pruniers, à côté de Bordeaux, pas loin de Bordeaux. Il y avait un maître qui n'est plus tellement en forme aujourd'hui, Thich Nhat Hanh, qui est un homme extraordinaire. Et j'ai appris à méditer, j'ai écouté leurs enseignements. Et depuis, je ne peux pas accomplir un rituel sans méditer. Donc, et j'ai compris qu'en fin de compte, le rituel n'a de sens que s'il est intériorisé, s'il est médité, s'il est accompagné par tout l'être, par le tout de l'être, et pas que ce soit une mécanique religieuse. Donc, évidemment, j'ai appris. Et je crois que si j'ai réussi à faire sentir à mes collègues qu'ils doivent puiser dans leur sagesse et pas seulement dans leur religion pour que leurs paroles puissent porter au-delà de leurs églises et au-delà de leur communauté, daïez-nous, ça nous aurait suffi.
Merci Marc-Raphaël Gage pour cette belle leçon de fraternité et d'universel singulier qui, en ces temps compliqués, nous offre une importante respiration qui se reçoit comme un magnifique cadeau. Je vous propose de poursuivre cette conversation la semaine prochaine. Merci encore, monsieur le grand rabbin.
Merci, Marc-Alain. J'étais très heureux d'être avec vous, de partager avec vous. Et il y a eu un rayonnement réciproque, et j'espère.
Merci beaucoup à vous. C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Valérie Lavalard, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de l'émission. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.